morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et maintenant, alors, qu'est-ce qu'on fait avec Vladimir Poutine? Est-ce qu'on peut même comprendre ce qu'il a réellement derrière la tête et quel peut être son prochain mouvement pendant que l'Europe s'apprête à lancer les premières sanctions, que Nord Stream 2 est suspendu? Est-ce que c'est la guerre qui nous attend dans les jours qui viennent? Nous essaierons de poser toutes ces questions ce soir. Le bruit du monde ce soir est à Madagascar, où on ne va pas assez souvent et où on cherche des solutions pour que la sécheresse et la faim ne soient pas une fatalité. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Eugénie a trouvé Panama, qui se souvient des stérilisations forcée d'indigènes, un point très noir de son histoire, une chanson pop aussi qui secoue la Turquie et un ours qui s'invite chez les gens en Californie. À 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce, on parlera notamment du congé paternité du patron de Twitter. Et puis 18h55, le monde d'après de Franck Madvon et la suite aussi côté ouest, côté américain de l'affaire ukrainienne. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Marie Mendras.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse au CNRS et au CERI, vous êtes professeure à l'École des Relations Internationales de Sciences Po, vous êtes l'une des meilleures connaisseuses de la Russie. Marie Mendras, il n'y a pas que la décision de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes de l'Ukraine qui a laissé l'Occident un peu interdit hier et aujourd'hui aussi. Il y a cette heure et demie de télévision surréaliste, il y a cette rhétorique aussi qui allait avec, il y a l'humiliation d'un des directeurs de renseignement extérieur. Il y a eu tout ce package-là. Est-ce que c'est exactement ce que Poutine avait imaginé qui est en train de se passer aujourd'hui? Ou est-ce qu'on est en train d'assister à quelque chose de presque désespéré de la part d'un homme qui s'arc-boute à une idée de ce territoire qu'il considère comme le sien, à une idée de la Russie? Est-ce que c'est les deux à la fois, au fond?
C'est plutôt la deuxième explication, ouais. Puisque aucun des hommes forts du régime, hein, ceux qui ont été réunis par Poutine hier soir, chef des services de renseignement, ministre de la Défense, chef des deux chambres du Parlement, aucun ne savait ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, Poutine lui-même en a repris deux ou trois en leur disant que... parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que Poutine allait véritablement décider dans les heures qui suivaient. Aujourd'hui, nous avons eu la même situation absolument incroyable, où ce matin, il est dit officiellement par les autorités russes que les républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk sont reconnues par la Fédération de Russie. Et puis, pendant quelques heures, on ne sait plus, les sénateurs disent autre chose, pour que finalement Poutine soit obligé de mettre les choses au clair cet après-midi, avec un ultimatum invraisemblable à l'Ukraine, et disant notamment que la reconnaissance vaut pour l'ensemble du territoire de chacune des provinces de Donetsk et Lugansk, qui est beaucoup plus que la partie qui avait été occupée avec l'aide des Russes en 2014.
Ça veut dire qu'on ne s'arrête pas à la ligne de front pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien. On va bien plus loin que cette fameuse ligne de front.
Donc,
est-ce que ça change tout?
Pour l'Ukraine, et de notre point de vue en droit international, c'est une déclaration de guerre. Parce que encore, Poutine aurait fait reconnaître uniquement les territoires occupés depuis 8 ans. On pouvait se dire, bon, ben, il revient à 8 ans en arrière, maintenant il admet l'évidence, c'est que ces républiques autoproclamées, en fait, sont complètement gérées par la Russie. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que, oui, la personnalité de Vladimir Poutine s'est beaucoup détériorée ces dernières années, et il est impossible pour même les hommes qui tiennent le régime avec lui, de savoir ce qu'il va faire dans l'heure qui suit. Donc c'est extrêmement dangereux.
Est-ce que ça veut dire, là effectivement, que comme vous le dites, c'est une déclaration de guerre quand on va au-delà de cette fameuse ligne de front? Est-ce que ça veut dire que l'Ukraine n'a d'autre choix que de riposter? Est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, le travail de l'Ukraine, et aussi le nôtre d'ailleurs, c'est de réfréner toute tentative d'aucune forme de riposte que ce soit, et d'attendre, d'essayer de voir un peu ce que Poutine fera lui, avant de répondre à quoi que ce soit? Est-ce que c'est ça notre travail, en quelque sorte?
Absolument. Il faut absolument pas tomber dans la psychose de l'homme du Kremlin. C'est une évidence. Si on se laisse prendre dans cette psychose s'en est terminé parce que il aura forcément raison. Ce qui est la seule, je dirais, le seul élément qui soit réconfortant, c'est que maintenant tous ceux qui veulent bien voir et tous ceux qui, comme vous, Fabienne Synthèse, ont regardé cet incroyable théâtre mortifère à la transmis à la télévision absolument partout dans le monde de cet homme, cet homme malade et qui fait peur à ses plus proches conseillers, eh bien voilà, maintenant plus personne ne peut dire que Poutine raisonne, qu'il a une logique. Nous savons, nous ne pouvons plus nous voiler la face. Nous savons à qui nous avons affaire. Les Ukrainiens eux-mêmes le savent depuis des années. Et donc, il ne faut surtout pas rentrer dans cette escalade et cet engrenage et continuer avec les deux instruments que nous avons majeurs. Ce sont les sanctions contre les personnes, contre les services financiers, contre les banques russes qui est en train d'être fait, et bien sûr l'arrêt du pipeline Nord Stream 2, et une diplomatie militaire et sécuritaire absolument intense de tous les pays du voisin de la Russie et des pays occidentaux.
Alors, les sanctions, elles sont en train de tomber à l'instant même, puisque l'Union européenne annonce que 27 individus et entités qui jouent un rôle pour saper l'intégrité de l'Ukraine, c'est ce que dit Josep Borrell, donc sont sanctionnés au moment où on se parle. Mais ce que vous dites, c'est qu'il faut continuer à négocier. Mais comment on fait pour continuer à négocier quand on sait pertinemment que rien de ce qui sort du bureau de Vladimir Poutine ne peut avoir de sens deux heures après? Mais on le voit quand même, on le rencontre,
nous
pas du tout.
Nous ne négocions pas. Et même, alors c'est un petit peu un jeu de rôle, mais même comme Vladimir Poutine est allé à Moscou, qu'il a parlé je ne sais pas combien d'heures avec Poutine, fait une conférence de presse, quand le chancelier allemand y est allé ensuite, ce ne sont pas des négociations. Ce sont des échanges, et ce n'est même pas véritablement un dialogue, puisque Vladimir Poutine répond toujours avec son même récit fantasmagorique d'ennemis ukrainiens, d'ennemis occidentaux, etc. Donc nous n'avons jamais prétendu négocier. En fait, ce que nous faisions, c'était essayer de rassurer l'homme et les élites autour de lui, et en même temps de soutenir à fond les Ukrainiens et l'État ukrainien. Donc on était plutôt dans le containment, de contenir. Maintenant, on est passé à un autre stade. Et donc, la seule chose que nous puissions faire, c'est faire peur. Donc, faire peur à la fois à Poutine, mais ça ne servirait pas à grand-chose, mais surtout aux hommes autour de lui, et aux élites économiques, financières, administratives de la Fédération de Russie, qui sentent que la chute peut être proche.
Et qui peuvent se retourner contre lui, c'est ce que vous dites ou pas?
Se retourner contre lui, tout ça est totalement imprévisible. Parce que nous sommes tous, même je dirais nous en Europe, on est assis sur un baril de poudre. Et comme personne ne peut avoir accès à Vladimir Poutine, ne peut lui dire quelque chose, la situation est imprévisible. En revanche, nous pouvons faire passer par des actions très fermes des messages clairs qui sont que nous n'allons absolument pas céder, nous n'allons d'autant plus soutenir évidemment les Ukrainiens, et que tous ceux qui continuent à participer à cette offensive de Vladimir Poutine auront de graves difficultés ensuite, et notamment, possiblement, devant le tribunal international de La Haye.
Mais qui peut lui dire ça dans l'oreille désormais? Parce que vous l'avez dit, c'est un homme qui, semble-t-il, est désormais un homme seul depuis le milieu de la pandémie, semble-t-il. Il s'est enfermé, il je sais pas combien il y a de conseillers autour de lui, visiblement très peu. Vous écrivez, Marie Mandras, dans l'hebdo le 1, qui est à paraître demain, cette phrase terrible, vous dites: la peur de la finitude, de la chute, tous les autocrates finissent par la ressentir. Poutine, l'ancien du KGB, a pris de l'âge. Il s'est raidi, il a du mal à contrôler ses émotions, il n'a pas de sage conseiller, il s'est affranchi des débats parlementaires, des opinions, etc. et de la sanction des urnes. Et seuls les gouvernements occidentaux, à force de diplomatie et de sanctions, peuvent l'empêcher de faire le saut dans l'inconnu. C'est ce que vous nous avez expliqué, mais qui peut lui dire à l'oreille? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour lui dire à l'oreille: on va dans le mur, et en klaxonnant. Est-ce qu'il peut entendre ça ou pas du tout ?
Il l'entend probablement, parce que tous ces hommes autour de lui, ses ministres, les commandants militaires, ils ont peur aujourd'hui. Aucun commandant militaire ne veut faire une guerre aux voisins ukrainiens. Enfin, et je crois qu'ils savent tous qu'ils sont maintenant arrivés au point de l'insensé, mm-hmm. ce qu'on dit en russe le « bespredel », le « sans limite ». Donc, nous devons apparaître comme les sages. On devra avoir une approche, je dirais presque, paternaliste et à leur égard, en leur faisant peur et en leur disant « il y a une possibilité pour vous de vous en sortir, vous les élites dirigeantes, mm-hmm. si vous arrêtez maintenant ». Comment cela peut se passer, je ne sais pas. Ce que j'espère à ce stade, c'est qu'en dépit de l'ultimatum que Poutine vient de prononcer, et qui est une déclaration de guerre à l'Ukraine de facto, que ça n'aura pas lieu. C'est-à-dire, prenons un exemple. On dit que l'armée russe a amassé beaucoup, beaucoup de troupes. C'est vrai. Mais comment est-ce que ces hommes peuvent combattre ? On ne s'interroge jamais sur le fait que, très probablement, s'ils osaient entrer plus à l'intérieur de l'Ukraine, il y aurait une telle résistance qu'ils ne gagneraient pas cette guerre. En fait, quand on connaît bien la situation en Ukraine et en Russie, on voit que si c'est une guerre d'invasion et d'occupation, elle n'est pas gagnable. Parce qu'ensuite, une fois qu'on a envoyé ces 100 000 hommes ou 150 000 hommes, qu'on bombarde, ben il faut contrôler les territoires et les populations, il faut contrôler les administrations, et il faut gérer. Poutine est de plus en plus incapable de gérer sa propre fédération. Si vous regardez les républiques du Nord-Caucase, elles ne sont plus gouvernées. Ce sont des exactions, c'est... Bon, évidemment, surtout à Tchétchénie avec Kadyrov. Donc, et nous devons, c'est difficile pour nous, Européens, parce que nous devons à la fois étudier tout ça avec sang-froid, et nous dire on peut encore sauver la situation, mais en même temps, nous devons réagir aux actions d'un homme qui a perdu son sang-froid.
Est-ce qu'on peut imaginer, on fait vraiment de la politique fiction et ça paraît un peu surréaliste, mais est-ce qu'on peut imaginer un Vladimir Poutine qui donne un ordre d'avancer, effectivement, et un état-major de l'armée russe qui dit non, on n'avance pas, on va pas faire ça, des Russes vont pas tuer des Ukrainiens. Est-ce que ça fait partie est-ce que c'est dans la liste dans les colonnes des c'est possible cette histoire ou pas?
Alors je vais vous étonner, Vladimir Poutine ne donne pas d'ordre. Il ne donne pas d'ordre, il ne les écrit pas, il ne les tamponne pas. Et c'est ce qui a fait aussi la force de son système autoritaire. Quand Anna Politkovskaya, la grande journaliste, a été assassinée en 2006, quand Alexei Navalny, l'opposant démocrate numéro 1, a été empoisonné en août 2020, vous ne trouverez jamais un ordre. C'est-à-dire que son système est de créer une ambiance, qui est surtout une ambiance de peur, qui fait que tous ceux qui doivent ensuite mettre en pratique des politiques savent à quel moment ils doivent faire quelque chose sans qu'on leur donne l'ordre en direct, et en espérant évidemment avoir l'impunité totale pour ce qu'ils font. Là, évidemment, c'est autre chose qu'empoisonner un opposant, et donc je ne pense pas que les commandants militaires s'attendent à avoir un ordre venant du chef de l'État et leur disant, eh bien voilà, vous pouvez avancer de 50 kilomètres en territoire ukrainien.
Mais qui maîtrise, par exemple, en ce moment, les soldats russes qui sont dans ces républiques, dans ces lieux qui ont désormais leur autonomie? Est-ce qu'on maîtrise ces hommes-là? Est-ce que l'étincelle peut pas venir de là, justement, de tous ceux qui sont là depuis maintenant 2014?
Les hommes, les troupes, elles dépendent d'un commandant militaire. Donc, ce qu'il faut justement espérer, c'est que les commandants militaires garde aussi la tête froide, parce que très important de rappeler que tous ces hommes, souvent des jeunes conscrits, il y a de la conscription en Russie, ils écoutent les mensonges et l'hystérie à la télévision soviétique, russe, pardon, oui, soviétique, ça sort...
La plus intéressante.
Bon, à la télévision russe, ils l'entendent, et puis j'imagine que quand ils ont des nouvelles de leur famille, les familles sont terrorisées, qu'est-ce qui va t'arriver, etc. Donc, à tout moment, il peut y avoir un incident. Et c'est pour ça qu'il faut d'autant plus de notre côté, même s'il y a un incident, des coups de feu, ne pas tomber dans cet engrenage infernal.
Et qu'est-ce qui se passe du côté des Russes, Marie Mandras? Alors effectivement, vous le dites, les télévisions russes en ce moment arrosent littéralement la population. Est-ce qu'ils y croient? Est-ce qu'on se dit qu'il peut se passer quelque chose de ce côté-là? Qu'est-ce qu'ils disent les Russes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dit quand on est un moscovite ou qu'on habite n'importe où en ce moment en Russie?
Première chose, c'est difficile à savoir puisqu'on ne peut plus vraiment mesurer l'opinion publique en Russie pour des raisons évidentes. Même le meilleur centre d'analyse de l'opinion publique, le centre Levada, a été déclaré agent de l'étranger depuis maintenant plus de 6 ans. Donc bon, l'opinion publique, ça ne peut pas exister. En revanche, l'état des mentalités, les comportements, comment les gens répondent aux questions, comment ils vivent, on se fait une idée. Et donc, on sait que la très grande majorité des personnes qui habitent la Fédération de Russie ne veulent absolument pas d'une guerre, ne veulent pas envoyer les fils à la guerre, ont plutôt une bonne opinion des Ukrainiens, et que leur préoccupation majeure, c'est le pouvoir d'achat qui ne cesse de baisser, la santé, l'éducation et de mettre fin à la corruption. Donc aujourd'hui, la grande majorité des personnes en Russie savent qu'ils ne sont pratiquement plus gouvernés correctement. Donc le mythe de la popularité du despote, ça y est, enfin, on peut dire que ce mythe est cassé.
On aura plaisir à vous réentendre sur ce sujet parce que j'ai bien l'impression qu'on n'a pas fini effectivement avec ces histoires et les trains de mesure qui continuent d'ailleurs, des sanctions européennes viseront aussi les députés russes, c'est ce que dit Josep Borrell à l'instant même. Marie Mandras, merci beaucoup vraiment de votre passage d'un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe à Madagascar et c'est le bruit du monde. Madagascar qui enchaîne des catastrophes climatiques, qui se bat contre une famine perpétuelle. Mais il y a des solutions, en tout cas des tentatives. C'est ce que Rémi Brancato va nous expliquer dans un tout petit instant. Et pour aller jusqu'à 19h, la troupe habituelle du mardi sous les radars, Sébastien Logénie.
La question des femmes indigènes stérilisées de force resurgit en Amérique latine. Le Panama ouvre une enquête.
Passons genre dans le monde et Julia Foyce. Bonsoir Julia.
Bonsoir, vote ultra serré et décisif en Colombie, mais ça y est, l'IVG n'est plus un crime.
Le monde d'après, Franck Madvon, bonsoir à vous Franck.
Bonsoir Fabienne, la crise ukrainienne a une conséquence peut-être inattendue pour Poutine, elle a renforcé l'influence des États-Unis en Europe.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue, il passe par le Brésil, Caetano Veloso sur France Inter.
Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grito é bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muito atrito, treta, tem moamba, mas tem sertanejo, trepa, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba,
sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba,
sem samba beija, apagou brejo, tem ferro, tem glória, groove, Maiara e Maraíza, e ou um. Tem Pacaxu do Blues, tem gente pra chuchu. Tem do David, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel.
Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muita treta, treta, tem muamba, vitória, doce beijo, dança, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Le bruit du monde, ce soir est à Madagascar, grâce à Rémi Brancato. Nous y sommes depuis ce matin sur France Inter. Madagascar qui sera ce soir touché par un deuxième cyclone, moins de trois semaines après le précédent qui a fait 120 morts. Et malgré ces pluies diluviennes, c'est toujours la sécheresse endémique qui fait souffrir la région du Grand Sud de l'île. Les deux dernières années ont été parmi les plus sèches depuis 40 ans. Résultat, 1,5 million de personnes en situation d'insécurité alimentaire qui dépendent de l'aide internationale pour survivre. Alors pour relever la tête, des situations à plus long terme sont envisagées, des projets d'agroécologie, de soutien aux paysans. L'objectif, c'est de rendre les agriculteurs plus forts face au changement climatique. Et le reste, c'est Rémi Brancato qui raconte.
Au bord de la piste, un grand rassemblement. Nous sommes à Amboï Malassa, dans le sud de Madagascar. Les habitants, des paysans, attendent dans ce village de récupérer des sacs de graines. Comme Georgette Mboula, il a plu un peu ces derniers jours après 2 ans de sécheresse.
Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions rien à manger.
Est-ce que vous avez des enfants ?
Oui, j'en ai 8. Pour les nourrir, j'ai coupé des arbres pour en faire du charbon et le vendre au marché. Quand je peux acheter à manger, je nourris mon foyer, mais quand je n'y arrive pas, il n'y a rien.
Nous n'avons rien cultivé du tout depuis 2 ans. La pluie n'est pas tombée, c'est la sécheresse, nous n'avons rien.
On vient récupérer des semences pour enfin pouvoir cultiver.
On est au cœur du village et les habitants se sont vus distribuer des sacs de semences. Et ces habitants nous tendent la main pour nous montrer ce qu'ils ont reçu.
Je m'appelle Miandrisoa. C'est du niébé, du niébé. Depuis 2 ans, on n'a eu aucune récolte. Ces semences vont nous permettre d'avoir des récoltes, mais il faut de la pluie. Si la pluie est régulière, ce sera bon, mais si la sécheresse revient, ce ne sera pas bon.
Ces semences, c'est la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, qui les fournit. Mais Jean-Filson Zafiroala, le trésorier de la commune, sait qu'elles ne suffiront pas partout à obtenir des récoltes.
Cette liste, c'est pour un quartier. Betiouk, il y a 120 personnes. Il y a 50 quartiers au total dans la commune et 15 ont obtenu des semences. 35 n'en ont pas eu.
Ça n'est pas suffisant.
Non, 35 quartiers n'ont pas reçu de semences. Et ce n'est pas parce que les habitants en disposent déjà. Ce sont les critères du FAO. 15 quartiers, pas plus. Et dans les 15 quartiers, ce ne sont que 120 foyers qui sont bénéficiaires et non pas toute la population. C'est le FAO qui fixe les critères et qui sélectionne les foyers.
On l'a vu un peu partout ici dans le Grand Sud de Madagascar, l'aide humanitaire d'urgence reste indispensable pour la plupart des habitants, pour leur permettre de survivre. Mais il y a aussi des solutions à plus long terme qui sont mises en place. Comme ici, nous sommes arrivés à Anjanor, c'est un petit village à 6 ou 7 km de pistes cabossées depuis la ville la plus proche, Bekili. Et ici, contrairement à d'autres endroits, les cultures résistent mieux à la sécheresse et on va tenter de comprendre pourquoi.
Je m'appelle Dami, je suis agriculteur sur la commune d'Anjanor et le projet Afafi Sud de l'association AIM nous apporte de l'aide pour l'agriculture, la santé et les ressources naturelles. L'eau qu'on voit ici dans nos champs, c'est grâce au barrage et c'est l'association AIM qui l'a construit. Ils ont aussi construit un magasin de stockage de semences. Le projet nous aide à produire davantage. Il nous procure des semences pour produire mieux, du riz, du maïs, du niébé, de l'arachide.
On a marché un petit peu. On est ici devant un décor assez impressionnant, tout vert. Il y a des champs de maïs, même de la pastèque qui pousse, je crois, encore derrière. Comment avez-vous fait pour obtenir ce résultat ici, dans une zone aussi sèche.
Le projet Afafi Sud nous a donné un kit SMI, c'est un système de micro-irrigation avec un panneau solaire. Il est relié à une pompe qui permet d'arroser ce champ grâce à la rivière juste là. Sur ces récoltes, il y a deux parties, une pour l'autoconsommation et on peut nourrir tout le village, et l'autre partie pour la vente des légumes sur le marché.
Ici, les paysans mangent mieux, ils génèrent même des revenus. Ce projet, l'association AIM le développe dans 8 communes pour 20 000 foyers. Une expérimentation bien limitée, alors qu'1,5 million de personnes ont reçu l'an passé de l'aide alimentaire. Le Grand Sud malgache manque d'eau. Le président a promis un pipeline pour l'acheminer, mais aussi des routes bitumées. La spécialiste en nutrition de l'UNICEF, Sylvie Chamois, que nous retrouvons dans la capitale, Antananarive, insiste sur ses besoins en développement.
On parle de l'eau comme cause, on va dire, primaire et principale pour la sécurité alimentaire, mais au final, les besoins dans le sud, c'est le développement dans son intégralité. Les routes pour améliorer les échanges commerciaux, le renforcement des systèmes de santé qui, quelquefois, sont tellement éloignés des centres urbains qu'ils sont peu approvisionnés en médicaments. C'est tous les secteurs sociaux qui ont besoin d'être développés. D'une manière générale, les investissements extérieurs pour la nutrition à Madagascar ne sont pas suffisants.
Avec les autres agences de l'ONU, l'UNICEF a préparé un grand plan pour la nutrition dans le sud, mais pour l'instant, seule la moitié des 480 millions de dollars nécessaires ont été récoltés.
Un reportage signé Rémi Brancato avec Alexandra Bergel à la prise de son. Merci vraiment à vous deux. Madagascar, la faim est-elle une fatalité? C'est un reportage à trouver en longueur dimanche matin à partir de 9h10 sur France Inter dans le magazine Interception. Le bruit du monde, la suite ce soir. C'est Sous les radars et c'est Sébastien Legénie. Et Sébastien, nous sommes dans les rues de Panama, c'est la capitale du Panama, secouée par une enquête autour de cas de stérilisation forcée de femmes indigènes.
La justice panaméenne, en effet, a ouvert des investigations hier suite aux accusations portées par une femme politique, une certaine Valkyria Chandler, membre de l'Assemblée nationale, et selon elle, une dizaine de femmes indigènes auraient été stérilisées dans des hôpitaux publics sans leur consentement. Elles viennent d'une zone montagneuse, difficile d'accès, où vivent les peuples Ngabé et Buglé. Plusieurs femmes ont dénoncé le fait qu'on leur avait ligaturé les trompes après avoir accouché. Pourquoi? Par qui ont-elles été stérilisées? L'enquête vient de commencer, mais elle réveille déjà de très douloureux souvenirs dans cette partie-là du continent. Le souvenir des 300 000 péruviennes stérilisées de force par le régime d'Alberto Fujimori entre 1996 et 2001. On entend là la responsable d'une organisation péruvienne de défense des droits des femmes. Ces femmes, dit-elle, ont été stérilisées juste parce qu'on considérait qu'elles ne pouvaient pas prendre de décisions seules sur leur propre sexualité, ou parce qu'elles étaient pauvres, ou parce qu'on considérait qu'étant indigènes, elles étaient ignorantes. La raison officielle de ces stérilisations forcées au Pérou, c'était de réduire la natalité chez ces femmes pauvres pour favoriser la croissance économique du pays. À l'époque, des agences américaines avait même participé à ces programmes de planning familial illégal. Aujourd'hui, les péruviennes victimes demandent un procès et au Panama, on est loin bien sûr d'une stratégie étatique organisée. Le pays, lui, a décidé, contrairement à son voisin péruvien, de faire toute la lumière dès maintenant, le plus rapidement possible.
Direction de la Turquie, Sébastien, où une chanson pop en apparence inoffensive divise le pays.
Oui, c'est le carton de l'hiver à Istanbul, une chanson de l'artiste germano-turc Tarkan. Le titre s'appelle Yeçecek. Littéralement, ça passera, vu plus de 20 millions de fois en quelques jours. Voilà, c'est bien produit, ça reste dans l'oreille, Fabienne. Ouais. Pour autant, rien de révolutionnaire. Jugez-en plutôt par ce texte très passe-partout. Ça passera, ça partira comme c'est arrivé. Ça a trop duré, on n'en peut plus, ça suffit, lâche-nous le col. A priori, la chanson fait plutôt référence à la pandémie de coronavirus. Dans le clip vidéo, pas d'allusion politique, juste des gens qui n'en peuvent plus de leur vie faite d'embouteillage, de télétravail. Sauf qu'en Turquie, eh bien, Yeçecek a été interprété comme une charge frontale contre le gouvernement. Tout a une fin, cette souffrance passera aussi. Des paroles qui sont devenues le porte-étendard des anti-Erdogan et le chanteur Tarkan, une sorte de Che Guevara turc, alors qu'il ne s'est jamais fait connaître pour son engagement politique d'un côté ou de l'autre. Une chanson pop transformée malgré elle en objet politique. L'opposition au sultan d'Istanbul ne cesse de prospérer.
On termine en Californie, Sébastien, terrorisé par une grosse boule de poils.
Une boule de 225 kilos quand même, voilà, avec des grandes dents et des grosses griffes. La boule est en fait un ours noir géant et il fait la une de tous les médias américains, y compris du très sérieux New York Times. Hank the Tank and he's causing even more trouble. Voilà, on est là sur la télé CBS qui accorde donc un long reportage à celui qu'on l'on surnomme, on l'a entendu désormais, Hank the Tank. Hank le Tank, cet ours aux dimensions impressionnantes sévit depuis le mois de juillet dernier au sud du lac Tahoe, à l'est de San Francisco. Il a déjà visité 28 maisons différentes, laissant derrière lui vitres cassées, portes défoncées, garde-manger dévastés, le tout sans faire de victime, heureusement. Les autorités ont tout essayé, paintball, taser, sirène, piège à ours, mais rien n'y fait. Hank the Tank est inarrêtable, il n'a plus peur des humains et devient donc dangereux. Alors, faut-il l'abattre, faut-il l'enfermer dans un refuge? Le débat fait rage en Californie, avec en arrière-plan un débat encore plus profond. Ce genre d'incursion de bêtes sauvages en pleine ville n'est pas nouveau. La faute, entre autres, au changement climatique. Cette fois, c'est la sécheresse hivernale que connaît la Californie qui détruit la nourriture des animaux et en particulier les baies sauvages. Hank the Tank n'est pas encore devenu un symbole national du réchauffement de la planète, mais on est à deux doigts ou deux poils.
Bravo, merci beaucoup Sébastien. Bravo vraiment pour le choix de vos jeux de mots. À demain.
Laissez bien seul.
Je vous laisse avec la formidable Amy Winehouse. You know I'm no good sur France Inter et dans Un jour dans le monde. No Good sur France Inter. Celle qui suit Is Good, c'est Julia Foyce et pas son genre dans le monde.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence par ce vote historique en Colombie.
Et pour une fois, l'adjectif n'est pas galvaudé. Fabienne a 5 voix contre 4. Tout juste, c'est passé. L'IVG est décriminalisée. Les Colombiennes vont pouvoir avorter et ce jusqu'à 24 semaines de grossesse. La Cour constitutionnelle a tranché cette nuit après 518 jours de bataille juridique. Près de 2 ans pendant lesquels, vous l'entendez, arborant un foulard vert comme leurs camarades argentines avant elles, les femmes sont allées battre le pavé pour dénoncer une violation fondamentale de leurs droits. Et elle est là, la bonne idée. On est dans un pays très catholique, dirigé par une majorité très conservatrice, avec un président qui invoque Dieu dans chacun de ses discours. Qu'à cela ne tienne, les associations féministes se sont passées du Parlement où le risque d'échec était grand. Elles en ont appelé directement à la Constitution et à leurs garants. Résultat, la Colombie, longtemps très en retard sur la question, devient aujourd'hui le pays le plus progressiste d'Amérique latine. Mais plus concrètement, comme la loi est rétroactive, ce sont des dizaines de femmes incarcérées pour avoir avorté qui vont bientôt retrouver la liberté.
La Colombie avance, Julia, l'Europe de l'Est recule.
Sur le plan de la contraception, c'est très net. C'est un atlas publié chaque année par le Forum des parlementaires européens dédié aux droits sexuels et reproductifs. Et ça saute aux yeux quand on voit la carte des 46 pays du continent. Il y a comme un fossé, et un fossé qui se creuse d'année en année entre l'Est et l'Ouest, à la fois pour l'accès à la contraception elle-même, mais également pour la diffusion ne serait-ce que d'une information fiable sur le sujet. La France, le Royaume-Uni et la Belgique poursuivent leur course en tête du classement. La Pologne, elle, après une série de lois très restrictives, termine bonne dernière cette année encore, avec notamment des taux de grossesse non désirée toujours plus élevés dans un pays où désormais, rappelons-le, l'IVG est quasiment interdite.
Et pendant ce temps, aux États-Unis,
l'éducation à la sexualité vient de marquer un point. Celle-ci a fait son entrée dans les écoles sous la présidence Obama. Évidemment, à l'époque, comme c'est le cas partout, levée de bouclier, main dans la main, les politiques plutôt à droite, les enseignants plutôt flippés. Les parents d'élèves les plus conservateurs s'élèvent contre ce qui leur semble une vaste entreprise de dévergondage organisée, pour dire les choses gentiment. C'était au choix faire la promotion de la sexualité en général ou de l'homosexualité en particulier. Si, certains pensent vraiment comme ça. Sauf que le seul véritable effet d'une information de qualité sur la sexualité en milieu scolaire vient d'être mesurée par l'université de New York. Depuis, les grossesses non désirées chez les adolescents ont baissé de 3%. Alors, je sais pas, on commence quand chez nous?
Allez, question du soir, bonsoir. Les mentalités peuvent-elles bouger à la faveur d'un seul exemple, Julien?
C'est en tout cas ce qu'on aura envie de penser aujourd'hui. Fraîchement nommé à la tête de Twitter, Parag Agrawal vient d'annoncer qu'il prendrait un congé paternité à l'arrivée de son deuxième enfant. Aux États-Unis, rien n'existe au niveau fédéral pour régler la question des congés de naissance. Tout se décide au niveau de l'entreprise. Et alors, je vous le donne en mille et mille, hein, quand on est dans le flou, voire dans le vide juridique, qui c'est qui plonge dans les couches la tête la première? Eh ben les mères, évidemment. Exception faite de quelques pères, donc, qui dans ces cas-là braquent toutes les caméras sur eux. Vous vous souvenez quand Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, avait pris un congé 2 mois pour l'arrivée de ses jumelles en 2015? On n'avait parlé que de ça. Alors certes, on va pas non plus leur tresser des lauriers quand l'écrasante majorité des femmes continue de se taper sans broncher et sans caméra. L'écrasante majorité des tâches domestiques, n'empêche, quand on voit le niveau des réactions sur Twitter à chaque congé paternité médiatisé, on se dit que, ouais, il y a du boulot et que non, un geste comme celui-là ne sera jamais de trop.
Elle s'appelle Julia Foyce et elle est là tous les mardis dans Un jour dans le monde. Merci Julia.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Franck Madvon. Franck, la crise ukrainienne dont on parlait un instant, une conséquence peut-être inattendue pour Vladimir Poutine. Les États-Unis s'intéressent à nouveau à l'Europe. L'administration Biden, obsédée par la Chine, semblait s'en détourner. Mais les provocations russes obligent les Américains à réagir et renforcent aussi l'OTAN.
Rappelez-vous, Fabienne, c'était en novembre 2019, on en a souvent parlé ici, interview d'Emmanuel Macron dans The Economist. Il affirme que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Une autre époque, l'Alliance Atlantique concentre alors son attention sur l'un de ses pays membres, la Turquie. Le président Erdogan a lancé un mois plus tôt une troisième offensive dans le nord de la Syrie, profitant du retrait américain. Les Turcs viennent aussi d'envoyer des centaines d'hommes en Libye et ils ont même menacé une frégate française en Méditerranée. De leur côté, les États-Unis se désintéressent de l'OTAN. Le président Donald Trump a qualifié l'organisation d'obsolète. D'une manière générale, Washington accorde peu d'importance à ses alliés européens et l'élection de Joe Biden plus tard n'y changera rien. La preuve, lors du retrait américain chaotique d'Afghanistan l'été dernier, les États-Unis évacuent leurs troupes tardivement sans se coordonner avec leurs alliés. Et en septembre, la France n'a plus aucun doute sur le fait que l'administration Biden a d'autres soucis que ses amis du vieux continent. Les États-Unis forment une alliance militaire avec l'Australie et le Royaume-Uni pour contrer les ambitions de la Chine dans la zone Indo-Pacifique. Tant pis pour le contrat des sous-marins français.
Et depuis quelques semaines, au contraire, Franck, l'Europe est de nouveau au cœur des attentions américaines.
D'abord, face au déploiement massif de troupes russes aux frontières de l'Ukraine, près de 200 000 hommes désormais, les États-Unis ont annoncé l'envoi de milliers d'hommes en Europe de l'Est. Depuis la fin de la guerre froide, le nombre de militaires américains en Europe est en déclin constant. On est passé de plus de 300 000 soldats à 60, 70 000 environ. Pour la première fois depuis très longtemps, la tendance est donc inversée. Par ailleurs, l'OTAN est désormais ressuscitée. L'alliance a été créée en 1949, au début de la guerre froide, précisément pour assurer la sécurité de l'Europe occidentale face au bloc soviétique. Elle se retrouve à nouveau aujourd'hui face à Moscou. L'OTAN est même au centre de la crise. Hier soir, lors de son discours télévisé, Vladimir Poutine l'a cité à de nombreuses reprises. Il a déploré son expansion vers l'Est depuis 25 ans. Pologne, République tchèque, Roumanie, Hongrie, pays baltes, entre autres, ont rejoint l'alliance et Moscou ne supporte pas l'idée que l'Ukraine puisse intégrer l'organisation. De son côté, l'Union européenne n'a pas les moyens militaires d'affronter la menace russe. La défense européenne, chère à Emmanuel Macron, est encore balbutiante, c'est le moins qu'on puisse dire, et les membres de l'UE sont parfaitement conscients qu'ils doivent se tourner vers les États-Unis pour assurer leur sécurité. Même la Finlande, qui s'est toujours tenue à l'écart de l'OTAN, n'exclut pas d'y adhérer. Son président a concédé aujourd'hui que la crise ukrainienne avait relancé ce débat. Et puis, autre illustration de l'influence de Washington, Berlin a fini par suspendre ce mardi Nord Stream 2, ce gigantesque gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, un projet que les États-Unis ont toujours combattu, à la fois pour éviter d'affaiblir l'Ukraine et, c'est important, pour vendre du gaz de schiste américain en Europe.
Et Vladimir Poutine n'avait peut-être pas prévu ce scénario, Franck.
Alors, ce qui est certain, c'est que le président russe a souvent profité des désunions, des désaccords entre occidentaux pour avancer ses pions. À première vue, la période est propice pour tenter une manœuvre en Ukraine. La France est en campagne présidentielle. Emmanuel Macron a d'autres préoccupations. Le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz n'a pas l'expérience d'Angela Merkel. Et les États-Unis sont plutôt tournés vers l'Asie. Mais jusqu'ici, le front occidental tient. Les Européens et les États-Unis semblent unis comme rarement et l'administration Biden retrouve donc un peu de son influence sur le vieux continent. Alors question Fabienne, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Ça pourrait faire l'objet d'une autre chronique, mais je vous propose une réponse rapide. Ça ne peut pas en tout cas réjouir les partisans d'une autonomie stratégique européenne. L'Europe est trop faible militairement pour réagir seule à la menace russe. La menace militaire russe, sa sécurité, son économie aussi reste très dépendante des États-Unis. Et c'est le moment de rappeler, Fabienne, que dans 2 ans et demi, un certain Donald Trump pourrait revenir à la Maison-Blanche.
Franck Madvon et le monde d'après. Merci beaucoup, Franck. Le 18-20, comme chaque soir, c'est Amélie Stadelman et Nathalie Poitvin à la programmation. Ludovic Asselot assure la réalisation. Marie-Claude Pinson est à la rédaction en chef. Magdalena Hervada au site et à la doc. C'est Djoubaka qui s'occupe de la programmation musicale. Merci à la technique ce soir, à Clément Berman et à Michel Bézikian. Dans un tout petit instant, c'est le journal de 19h et puis le téléphone. Sonne.